La vie est un art.
Deuxième émission avec vous, professeur Antoine Pellissolo. Je rappelle que vous êtes l'auteur chez Flammarion d'un livre intitulé « Vous êtes votre meilleur psy », dans lequel vous donnez aux lecteurs des pistes très concrètes pour se soigner, alors pour essayer de soigner l'anxiété excessive, les fragilités dépressives ou divers problèmes gênants, par exemple, qui peuvent altérer notre comportement ou le bien-être, tels que les phobies, les addictions. La fois dernière, nous avons parlé ensemble donc, de comment réguler le stress. Nous avons vu aussi les questions d'insomnie. Alors, arrêtons-nous aujourd'hui plus sur les phobies. On peut avoir peur de plein de choses, hein, des araignées, des souris, du vide, de monter un escalier, on a le vertige, du sang, des piqûres. C'est quoi une phobie ?
Alors, les phobies, en fait, ce sont des peurs exagérées, ce sont des peurs qui prennent le contrôle de la personne. La peur, au départ, c'est une réaction momentanée face à un danger réel et il est bon de se protéger, par exemple, du vide, de ne pas se pencher trop près d'une falaise. Il est bon de se protéger d'un tigre si vous le croisez dans la rue. Mais par contre, quand vous avez peur de tout animal, par exemple, qui ressemble à un tigre et notamment les chats, c'est simplement parce qu'il y a eu une exagération et malheureusement un réflexe qui est très très fort. Ce réflexe très fort qui fait qu'on n'arrive pas en général à dépasser la phobie, c'est que le cerveau est programmé pour pouvoir se méfier de choses réellement dangereuses et même court-circuiter le raisonnement. Si je me protège d'un danger immédiat, c'est pour ne pas me faire attaquer, pour ne pas mourir et je ne vais pas prendre le temps de me raisonner à ce moment-là, je vais me protéger tout de suite. Et dans le réflexe de phobie, c'est probablement ce réflexe-là très profond en nous qui prend le contrôle, qui vous empêche de penser, qui vous empêche voilà, de changer votre réaction parce que probablement c'est un réflexe de survie, alors qui est inadapté parce que en général les peurs dont on parle dans ces cas-là ce ne sont pas des dangers réels, sinon
peur des souris, on ne peut pas dire que ce soit un danger réel.
Voilà, mais il y a sûrement dans le cerveau une analogie, la souris ou d'autres animaux.
Le rat peut-être
évoquer,
était dangereux. Hein.
Alors, voilà, évoquer d'autres animaux, probablement dans l'histoire humaine, hein, dans le développement de l'espèce, qui ont à un moment donné été des prédateurs réels et dont l'organisme a gardé la trace. Pas chez tout le monde, hein. Heureusement, tout le monde n'a pas peur des souris, mais c'est quand même très fréquent et c'est suffisamment fréquent pour penser que c'est vraiment quelque chose que nous partageons au niveau de notre cerveau et sous des formes variées. Hein. Pour certains, ça va être les serpents, d'autres...
Les araignées.
Les araignées, bien sûr. Et vraiment, le réflexe qui revient toujours, c'est plus fort que moi, je ne peux pas lutter et malheureusement, quelle que soit la cause de départ, la cause est souvent un peu obscure. Hein. On ne sait pas comment ça commence souvent, mais par contre, on sait comment ça se renforce, comment ça se maintient. C'est tout bêtement que quand on a l'habitude d'avoir peur de quelque chose, on prend l'habitude de l'éviter au maximum, de ne pas s'y confronter. Et ça, malheureusement, c'est aussi un deuxième réflexe du cerveau qui est de se méfier de plus en plus des choses dont on n'est pas habitué. Et donc, plus on évite de se confronter, plus on a peur de l'objet initial, même si finalement la cause de départ est dépassée depuis longtemps.
C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous déculpabilisez les gens. Vous dites, au départ, c'est un système d'alarme qui était nécessaire.
Tout à fait, tout à fait. Toutes les émotions, d'ailleurs, hein, sont nécessaires et positives, même celles qui font un petit peu mal, comme la peur ou la colère ou le dégoût. Mais elles sont nécessaires jusqu'à un certain point. Et simplement, il y a un petit dérèglement qui peut s'expliquer par une constitution particulière chez certains, par des événements de vie particuliers chez d'autres. Ces petits dérèglements dont on n'est pas responsable, donc ça ne sert à rien de se culpabiliser, sont très fréquents. D'abord, hein, les phobies, on dit que c'est 10 ou 15% de la population générale, donc ça fait beaucoup de monde. Et surtout, on ne va pas se culpabiliser d'avoir, à un moment donné, mis en place un mauvais réflexe. Il faut juste essayer de le comprendre pour le modifier.
Alors, comment faire pour se désensibiliser donc face à ce danger potentiel ?
Alors c'est le terme. Enfin, on va se désensibiliser non pas du danger, puisqu'il n'y en a pas, mais de la peur que l'on
virtuelle,
ressent.
Quoi.
Voilà. Et très souvent, en fait, le mécanisme de base, c'est qu'on a peur d'avoir peur. C'est-à-dire qu'on se dit, si je dois voir une souris dans le grenier là où je n'ai pas envie de monter, je vais faire une attaque de panique et je vais peut-être en mourir. Enfin, pour certaines personnes, c'est insupportable parce qu'elles l'ont déjà vécu et elles ont gardé un souvenir quasi traumatisant d'une réaction de peur intense. Alors la première chose à faire, et c'est ça qui prend un peu de temps, donc j'essaie de l'expliquer, c'est que la peur n'est pas dangereuse. On ne peut pas mourir de peur, par exemple, malgré le langage courant qu'on a dans la tête, mais la peur n'est pas dangereuse, c'est pénible, hein, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça peut être très pénible sur le moment, mais il y a toujours un moment où ça passe, où ça s'arrête, et on ne risque rien au niveau physique. Alors, évidemment, quand on est en bonne santé. Il y a des gens qui sont très fragiles du cœur, et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que les émotions sont complètement, qui sont complètement insensibles aux émotions. Mais très souvent, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc la peur n'est pas dangereuse, donc on peut s'y confronter. Et on va pouvoir, en fait, la réguler en s'y confrontant. Alors, pour se confronter aux situations et donc s'habituer à la peur, il y a une petite règle simple que j'appelle PLS, comme la position latérale de sécurité pour les secouristes, qui consiste à faire une exposition, c'est-à-dire une confrontation progressive, longtemps et souvent. Donc progressive, c'est-à-dire il faut trouver des étapes. Par exemple, si on a peur de l'ascenseur, parce que claustrophobie très fréquente, on ne va pas prendre l'ascenseur tout de suite tout seul pour monter au 20e étage. On va y aller d'abord avec une personne qu'on connaît bien, on va faire un étage et puis ressortir. Par contre, il faut le faire longtemps, c'est-à-dire que, par exemple, monter, redescendre pendant 10 minutes, un quart d'heure. Bon, ça peut paraître un petit peu long, mais c'est un exercice tout à fait pertinent. Et souvent, dernière chose, c'est que ça ne va pas changer en une seule fois. Il va falloir le répéter, dans l'idéal, tous les jours. Bon, on ne peut pas toujours le programmer, mais au moins très régulièrement, pour que le réflexe change. Hein, le réflexe, souvent, on l'a depuis des années. Hein. Très souvent, ça a commencé dans l'enfance, ou en tout cas à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Donc, quand on a ça depuis 20 ou 30 ans, évidemment, le souvenir de ce réflexe de peur ne va pas disparaître tout de suite. Donc, il faut le modifier en profondeur, mais par des exercices comme ça répétés et simples, hein, finalement, c'est juste se confronter au niveau d'anxiété tolérable, hein, donc de ne pas se faire trop violence, mais quand même, on a une façon de compter les choses, hein, que j'explique, c'est si on compte de 0 à 10, un peu comme sur la douleur, on peut s'exposer à un niveau d'anxiété de 4 ou 5, par exemple, sur 10. Alors c'est pénible, mais on sait que c'est supportable, et c'est pas non plus le traumatisme à chaque fois. Donc en général, quand on fait ça pendant plusieurs jours de suite, l'anxiété, au lieu d'être à 4 ou 5, elle va baisser à 2 ou 3, puis ensuite à 0, parce que l'organisme sera habitué, c'est vraiment le terme qui s'applique et qu'on applique dans ce modèle de déconditionnement, un peu comme les allergies, en fait, on habitue le corps à supporter quelque chose qui n'est pas dangereux. Donc la clé de l'histoire, c'est qu'effectivement, il ne va rien se passer. Vous n'allez pas mourir de peur dans l'ascenseur ou en voiture, par exemple, pour les gens qui ont peur de la voiture, pour pouvoir finalement considérer que la situation que vous redoutiez au départ et que vous évitiez est en fait une situation banale auquel vous êtes habitué et donc à laquelle vous êtes familière. Parce que c'est vraiment cette notion de familiarité qui manque très souvent quand on a peur des choses.
Donc en fait, il faut se mettre face à ce qui nous fait mal, qui nous fait peur, et on n'en a vraiment souvent pas envie, pour diminuer l'émotion qui est liée à cette peur.
Pour apprendre à supporter des petits niveaux de peur. Parce que vraiment, les émotions, on le disait, elles font partie de notre vie. On ne peut pas vivre sans émotions, aussi bien positives que négatives. Simplement, quand on lutte contre elles, on les renforce. C'est vraiment ça le principe de base de tout ce qui est peur, anxiété, stress, phobie et même dépression, probablement, on peut aller jusque-là. Quand on les refuse, parce que soit on en a peur, soit parce que c'est l'inconnu qui souvent fait peur. On a souvent l'idée que si on est mal, ça va continuer de manière vraiment indéfinie. On va exploser. Enfin, si je reste à un endroit qui me fait peur, je risque un infarctus, par exemple, ce qui est complètement faux. Mais pour s'en convaincre, en dehors de l'idée, hein, d'en être convaincu déjà au niveau un peu intellectuel, il faut aussi le vivre pour pouvoir se prouver que c'est vrai. Et donc, le vivre, c'est passer du temps à l'endroit en question pour que ça devienne vraiment une situation familière et non pas cette espèce d'énigme ou de terreur qu'on imagine auparavant.
Certaines personnes peuvent même arriver à certains, on appelle ça donc des malaises vagaux, en fait, à croire qu'ils vont mourir.
Alors ça, c'est le malaise vagal, en fait, est très typique et quasiment uniquement lié à la phobie du sang. D'habitude, quand on a peur et quand on est phobique et quand on a des crises d'angoisse, c'est l'inverse, en fait, du malaise vagal, parce que le malaise vagal, c'est le cœur qui se ralentit un peu, alors que quand on a tous expérimenté ça, quand on a peur, on a plutôt le cœur qui s'accélère. Et quand on a un cœur qui s'accélère, on ne peut pas tomber dans les pommes, ça c'est impossible, puisqu'on est plutôt en hyperactivité. C'est pas ce moment-là qui va faire qu'on s'endort, par exemple, parce que c'est tout le contraire. Par contre, pour des raisons biologiques, encore un petit peu obscures, mais qu'on essaie de comprendre. Quand on a peur du sang et quand on voit une prise de sang ou ce qui s'en rapproche, c'est-à-dire une piqûre par exemple, on a plutôt tendance, et c'est souvent ça que décrivent les gens, à se sentir faiblir, comme on dit, jusqu'à parfois tomber dans les pommes, ce qui effectivement correspond en général à un malaise vagal, En général, c'est pas grave du tout non plus. Mais bon, c'est vrai qu'il faut l'avoir un petit peu prévu pour pouvoir s'asseoir, s'allonger et puis se remettre de cette situation. Et c'est la seule situation dans laquelle on peut avoir cette réaction. Hein, donc, les méthodes pour lutter contre ça, elles sont assez simples, puisque c'est le cœur qui se ralentit un peu. Hein, c'est une petite baisse de tension qui n'est pas grave le plus souvent. Ben, on va plutôt avoir besoin de se remettre en action dans ces cas-là. Et donc, face à la phobie du sang, ce qu'on propose, c'est plutôt de serrer les muscles, serrer les poings et d'avoir plutôt une petite activité physique sur place, hein, brève, mais qui permet d'éviter ce ralentissement du cœur.
La vie est un art.
Avec vous, professeur Pilisolo, nous parlons donc, à partir de votre livre « Vous êtes votre meilleur psy », à voir comment aborder certains petits désagréments qu'on a au quotidien, et qui ne sont pas gravissimes, mais finalement qui empoisonnent la vie. Alors j'ai envie de vous parler de choses assez originales. Alors, l'onychophagie et la trichotillomanie, c'est ça ?
Oui, c'est des noms difficiles. En fait, c'est des choses qu'on connaît tous. Enfin, en tout cas, les premiers, se ronger les ongles, l'onychophagie, se manger les ongles, étymologiquement. La trichotillomanie, c'est s'arracher les cheveux. Donc, bon, on ne le fait pas au quotidien, sauf certaines personnes, malheureusement. C'est un syndrome un peu particulier qui touche peu de personnes, mais qui peut aller très loin, s'arracher complètement les cheveux. Bon, ce sont au départ des réflexes, là aussi, probablement très comportementaux, hein, de base, qui viennent sûrement d'assez loin dans notre biologie, qui correspondent à des comportements d'auto-nettoyage, on peut dire. Hein.
Monsieur donc, propre, vous écrivez.
Alors voilà, pour ce qui est de la propreté, du lavage aussi, parce que c'est vrai que ça va souvent avec la tendance à se laver un peu trop. Alors c'est bien de se laver, mais pour certaines personnes, il manque le signal de stop. Ça va y est, je me suis déjà lavé, pourtant je recommence. Lavage des mains, ou parfois ça va jusqu'à la douche. Ce sont des réflexes de base que l'on peut expliquer, là, comme pour les phobies, par des besoins. Hein, le besoin de rester propre et d'éviter certaines maladies, il existe et il est vital dans certaines situations. De même que ce qui va souvent avec d'autres habitudes comme ça, excessives, qui se rapprochent des TOC, hein, puisque c'est ça la maladie, entre guillemets, qui peut survenir quand les choses s'accentuent, qui sont les besoins de vérifier. Il y a des réflexes comme ça pour certaines personnes, exagérément, de vérifier les choses, qui sont là aussi pour la bonne cause au départ, éviter les erreurs, mais pour certaines personnes, et on ne sait pas bien pourquoi, il y a un dérèglement de ce contrôle qui devient excessif. Donc que ça soit se protéger de l'environnement ou de se protéger de soi-même, parce que c'est un peu ça dans les vérifications, il y a des moments où c'est trop, hein, où on n'arrive pas à s'arrêter. Là aussi, le discours, c'est très souvent, c'est plus fort que moi, je sais que je ne devrais pas le faire, ça ne sert à rien, je devrais m'arrêter de me ronger les ongles ou de gratter. Il y a aussi des gens qui ont tendance à se gratter les boutons, à examiner la peau, un peu du visage ou autre, pour essayer de supprimer toute anomalie. Et malheureusement, à force de gratter, on en crée des anomalies, donc c'est un cercle vicieux. Donc ce sont des réflexes un petit peu de comportement dont il faut prendre conscience pour pouvoir les modifier.
Alors comment prendre conscience ?
Alors c'est beaucoup de l'auto-observation, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps, pas toute la journée, mais sur une période donnée, tout simplement de voir quand est-ce que ça commence. Qu'est-ce qui s'est passé souvent juste avant ? Parce qu'il y a aussi des rituels là, qui commencent comme ça, des mauvaises habitudes qui sont déclenchées alors par plein de choses. Ça peut être une situation de la vie quotidienne, ça peut être un ressenti intérieur qui a provoqué cette réponse. Ça peut être un discours qu'on a sur soi-même, c'est souvent des inquiétudes, pour pouvoir donc comprendre comment ça commence et donc y être plus vigilant à ce niveau-là. Combien de temps ça dure ? Comment on le fait ? Comment on peut trouver des parades pour pouvoir un petit peu avoir un plan d'action ? Donc ça peut être sur plusieurs jours, de noter. Moi, je conseille beaucoup de noter les choses parce que c'est le seul moyen de faire un point rétrospectivement sur une période donnée. Parce que sinon, on a tendance à penser à autre chose et à passer à autre chose. Souvent, quand on se culpabilise un peu, surtout, hein, on préfère oublier. Mais ça ne sert à rien de mettre les choses sous le tapis. C'est bien de les mettre un petit peu à plat pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Et on s'aperçoit que même souvent, sans rien mettre en œuvre de particulier, rien que le fait de compter, par exemple, la durée ou le nombre de fois où on va se laver les mains de manière excessive, ou combien de temps on va se ronger les ongles, par exemple, dans une situation donnée. Rien que le fait d'observer ça et de noter permet de le réduire. C'est parfois étonnant, mais c'est très significatif. Cette auto-observation permet de prendre conscience de certaines choses exagérées et déjà de les limiter. Bon, et après, c'est plutôt une analyse des facteurs qui les déclenchent et les facteurs qui peuvent les soulager.
Alors vous êtes très concret, hein. Vous dites qu'il peut y avoir des parades. Par exemple, quand on ronge les ongles, on peut mettre tout simplement les mains sous ses fesses, hein, comme ça on se rongera plus les ongles, ou mettre du vernis qui est amer, ou bien jouer avec un gadget, ces espèces de cubes là, qu'on tourne dans tous les sens, on est occupé et du coup on va moins se ronger les ongles.
Oui, parce que finalement on a sûrement en nous ce besoin-là, enfin chez certaines personnes, d'une forme de gesticulation. Alors ça va souvent avec le stress, donc c'est bien ensuite de travailler sur le stress, mais cette activité motrice, il vaut mieux l'utiliser autrement. Et c'est vrai que des parades qui peuvent paraître assez simplistes, mais c'est souvent le seul moyen d'éviter de se faire du mal, quoi, parce que finalement, se ronger les ongles, parfois ça va un petit peu loin. Le fait de se protéger les mains, par exemple, tout bêtement, ça permet de casser ce rituel. Et très souvent, une fois qu'on a supprimé un réflexe, encore une fois, de se ronger les ongles devant la télé, par exemple, ou en faisant autre chose, en étant conscient de la situation dans laquelle on est, c'est souvent cette notion de conscience qui s'oppose à ce qu'on appelle le pilotage automatique, c'est-à-dire on fait souvent les choses sans en avoir bien la vigilance, et on le fait en même temps qu'autre chose. Donc se concentrer sur une seule action, et quand on doit par exemple s'empêcher de se ronger les ongles ou d'autres mauvaises actions comme ça, c'est pareil pour l'alimentation par exemple, hein, le fait de manger trop à certains moments ou de boire trop, on ne peut pas le modifier si on n'en a pas conscience. Donc il faut prendre le temps de faire une seule chose à la fois et de par exemple sur une période donnée avoir des périodes d'interdiction complète. Je vais tout faire pour ne pas me livrer à cette action-là. Et normalement, on peut le faire parce que c'est heureusement, on a le contrôle de son comportement quand on en est conscient sur le moment.
La vie est un art, Bénédicte Draillard.
Alors, je rappelle, professeur Pellissolo, que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Vous êtes votre meilleur psy ». Et c'est à partir de ce livre que je vous pose toutes ces questions. Dans la table de matière, il y a énormément de questions. Alors, je suis trop stressée, j'ai le trac en public, je rougis pour un rien. Peut-être que certains auditeurs pourront s'identifier. Je suis hypochondriaque, je ne suis pas bien dans la foule, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur de conduire, je ne supporte pas les piqûres, je me ronge les ongles, je mange trop ou bien je bois trop, etc., etc. Je suis perturbée par de mauvais souvenirs, je dors mal, je n'aime pas mon corps. Il faudrait je ne sais pas combien d'émissions pour traiter toutes les questions. Mais pourquoi avoir eu ce désir de la vulgarisation, ce désir de ce livre qui est extrêmement simple, comme je disais, très pédagogique, où chacun peut retrouver finalement... On peut s'identifier dans différents thèmes, non ?
En général, on me dit que dans à peu près un tiers ou la moitié des questions, on peut se sentir concerné d'une personne à l'autre. Tout bêtement parce que ce sont vraiment des problématiques qui sont en général qui viennent de choses normales et qui deviennent excessifs, parfois même pathologiques, mais il y a toute une période dans laquelle, en fait, on peut éviter de tomber dans la pathologie. Donc, sur toutes ces questions-là, on touche, on l'a vu, à des questions fondamentales des peurs, des mauvaises habitudes, des consommations, qui sont vraiment tous les problèmes d'ajustement, en fait, qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Et j'ai préféré avoir ces questions plutôt que de parler de pathologie, parce qu'il y a plein de choses, encore une fois, qui, d'une part, ne sont pas des pathologies complètement constituées, heureusement, et puis surtout, qui culpabilisent. Le but, c'est pas de dire j'ai une pathologie, c'est plutôt j'ai une difficulté avec un comportement ou une mauvaise habitude ou des réactions émotionnelles et je vais apprendre à mieux les comprendre. Et encore une fois, parce que tout ça, ça s'apprend pas, on n'apprend pas beaucoup de psychologie, par exemple, à l'école, alors que ça devrait faire partie, je dirais, des bases de la connaissance de soi.
Aujourd'hui, de plus en plus, quand même, hein, on entend par rapport au stress, par exemple, toutes ces questions de méditation, de respiration, ou le fait de s'affronter à nos peurs. Mais là, dans votre livre, vous êtes extrêmement concret. Alors, vous donnez des exemples. Vous faites référence aussi quelquefois à Internet. Hein. Par exemple, sur le stress, vous donnez des adresses aussi sur Internet où on peut trouver des choses qui peuvent nous aider. Par rapport, par exemple, aux phobies, vous dites, eh bien, voilà, vous avez, je ne sais pas moi, la phobie des piqûres, par exemple. Eh bien, sur Internet, vous pouvez regarder des films, des séries, par exemple, qui se passent dans les hôpitaux où on voit des piqûres. Vous pouvez regarder sur les araignées, par exemple. On peut regarder des films sur les araignées, des photos sur les araignées.
Oui, parce que vraiment, la mise en situation est vraiment l'essentiel. Et il faut la préparer. Quand on a trop peur et on se dit « je ne peux pas y aller tout de suite », on va pouvoir... la vidéo, puisque maintenant, c'est un média vraiment courant pour tout le monde avec Internet et les smartphones, c'est très riche, vraiment. Et donc, j'ai creusé un peu pour... c'est ce que je fais souvent avec mes patients, mais pour donner des adresses, tout simplement. Et il y a une foultitude de choses qui peuvent être utiles sur les aspects médicaux, sur l'avion, par exemple, parce que c'est difficile de s'habituer s'habituer à prendre l'avion, hein, parce qu'on ne va pas le faire tous les jours. Par contre, s'habituer à regarder comment fonctionne un avion, l'aéroport, les vols, parfois même quand il y a un peu de turbulence, bah, si on est déjà habitué après avoir visualisé assez régulièrement, hein, et à nouveau assez longtemps, ces situations de manière virtuelle, c'est sûr que ce ne sont que des vidéos et on n'est pas dans la vraie vie, mais le cerveau fonctionne comme ça, le cerveau fonctionne avec du virtuel, parce que nos peurs, elles sont complètement virtuelles en général, complètement symboliques.
Est-ce qu'on peut dire que dans vos patients, vous avez eu vraiment des résultats ?
Alors, c'est indéniable que tous ces troubles-là se soignent très bien, même quand ils sont un petit peu graves. Et là, il faut un peu plus de moyens, un peu plus de temps avec des professionnels, mais on obtient des bons résultats parce que tout simplement, on va utiliser j'appelle ça l'autoréparation, c'est-à-dire les procédures qui permettent ensuite de surmonter les mauvais réflexes. Donc, les mauvais réflexes sont inutiles, on peut les combattre et on revient juste à la normale. Donc finalement, ce ne sont pas des pathologies qui reposent sur, on va dire, des lésions cérébrales ou des anomalies définitives. Elles peuvent être annulées. Alors, avec des efforts, hein, évidemment, l'effet du temps fait qu'on est ancré dans des comportements, mais si on arrive à comprendre sur quel levier il faut agir, on peut revenir à des réactions plus normales avec toutes les variantes des personnalités des uns et des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est anxieux de nature ne va pas devenir complètement, à l'inverse, insouciant. Il peut, comme ça, petit à petit, comprendre où ça devient excessif et quels moyens utiliser pour éviter de tomber dans l'excès.
Avec la répétition, est-ce qu'au niveau neuronal, ça ne permet pas aussi au niveau de la neuroplasticité d'avoir des nouveaux circuits neuronaux qui s'impriment plus ?
Ah ben c'est exactement ça. Quand je parle de changer les réflexes, on sait que c'est basé sur en fait, la plasticité du cerveau, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles voies de lien entre les neurones. En fait, dans les pathologies ou dans les mauvais réflexes, ce sont des voies un petit peu, on va dire, détournées qui sont mises en place. Et il faut les supprimer et on en remplace par d'autres. Et ça se fait par l'action. Ça se fait pas par juste une réflexion. La réflexion, ça a été longtemps le modèle un peu de la psychanalyse où il fallait à tout prix parler des problèmes pour les régler. C'est bien de parler, mais le plus souvent, c'est en agissant qu'on modifie ces voies cérébrales. Et ça marche très bien. Et c'est même confirmé par les travaux d'imagerie cérébrale où on voit les changements. Et d'ailleurs, c'est étonnant, quand on fait une psychothérapie pour traiter un trouble anxieux, par exemple, ou un TOC, et quand on le traite par médicament, on obtient le même résultat. Au niveau cérébral, les changements sont les mêmes. Ce qui veut dire que ce qui change, c'est toujours des aspects biochimiques et des aspects neuronaux, quelle que soit la méthode qu'on utilise, et avec finalement un retour à quelque chose qui sont les réactions normales, émotionnelles, mais avec on aide le cerveau à reprendre le dessus sur les émotions trop fortes.
Un grand merci, professeur Pellissolo. Donc, je rappelle votre livre, Vous êtes votre meilleur psy, chez Flammarion, avec comme sous-titre Allez mieux sans divan ni médicaments. Merci.